Bonsoir à tous et bienvenue pour cette neuvaine de prière pour les malades. Quand la souffrance interroge, Dieu répond par l'espérance. L'amour et la souffrance constituent les deux tonalités fondamentales de la trame existentielle humaine. Si l'une suscite naturellement l'adhésion, l'autre provoque un mouvement de recul instinctif. Cependant, l'examen attentif de la condition humaine révèle que la dynamique du progrès et de la fécondité n'est pas l'apanage exclusif de l'amour, du moins en première analyse. Toute l'histoire de l'humanité, dans sa dimension collective, comme dans ses récits individuels, est irrémédiablement marquée par le sceau de la souffrance. Celle-ci se manifeste sous des formes pléthoriques, qu'elle soit subie dans la chair ou recherchée dans la sèse, qu'elle revête un caractère ordinaire ou qu'elle atteigne des sommets extraordinaires, elle peut se faire rédemptrice ou, à l'inverse, prendre un tournant infernal. Ce qui la caractérise avant tout, c'est qu'elle est un symptôme, qu'elle fait signe. De quoi ? C'est précisément ce que nous chercherons à dégager durant cette neuvaine de prière. Si notre démarche se concentre d'abord sur la souffrance humaine, ce n'est pas pour en épuiser le mystère, mais parce qu'elle nous est apparemment la plus immédiatement accessible. Mais la foi chrétienne nous invite à voir plus loin. D'abord, il faut le dire clairement, Dieu en lui-même ne souffre pas. Dieu est plénitude, il est bonheur. Il est vie. En lui, il n'y a ni manque, ni blessure, ni douleur. Il est immuable et bienheureux en lui-même. Alors, une question se pose. Comment pouvons-nous dire que Dieu a souffert? La réponse se trouve au cœur de notre foi, en Jésus Christ. En lui, Dieu s'est fait homme. Cette affirmation ne peut être comprise qu'à la lumière du mystère de l'incarnation et de la doctrine de la communication des idiomes. En Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, les deux natures, divine et humaine, sont unies sans confusion ni séparation dans l'unique personne du Verbe. Dès lors, ce qui est propre à la nature humaine du Christ, y compris la souffrance et la mort, peut être attribué à la personne divine du Fils. C'est en ce sens que l'Église peut confesser avec justesse que Dieu a souffert dans la chair, non pas selon sa divinité, mais selon l'humanité assumée. Comme l'enseigne saint Thomas, je cite, « On peut dire que Dieu a souffert, non en sa nature divine, mais en la nature humaine qu'il a assumée. » Ainsi, la souffrance n'est pas abolie en Dieu, mais librement assumée par lui dans le mystère du salut. Elle devient alors le lieu même de la rédemption. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois. Ce regard ne saurait toutefois s'arrêter à l'humanité du Christ. La révélation nous ouvre également à une dimension souvent oubliée, celle des créatures spirituelles. Les anges, pur esprit créé libre, ont été appelés à adhérer au dessein de Dieu. Certains, par un refus radical, que la tradition identifie comme un péché d'orgueil, se sont détournés de Dieu. Leur souffrance, entre guillemets, que la théologie décrit comme la peine du damné, consiste précisément dans la privation définitive de la vision béatifique. Elle n'est pas une souffrance subie comme chez les hommes, mais l'état irréversible d'un être qui s'est fermé à la source même de son accomplissement. À l'inverse, les anges demeurés fidèles vivent dans la contemplation de Dieu. La tradition spirituelle reconnaît en eux une forme de compassion, non pas une souffrance au sens strict, puisqu'ils participent à la béatitude divine, mais une participation à la sollicitude de Dieu pour l'humanité. L'Écriture elle-même suggère cette dynamique lorsqu'elle affirme qu'il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Leur joie face au salut laisse entrevoir en creux leur attention au drame de la chute humaine. Ainsi, la souffrance ne peut pas être réduite à une simple réalité humaine. Elle s'inscrit dans un mystère plus grand, où Dieu lui-même vient nous rejoindre. Il convient maintenant de reprendre avec attention les idées que nous entendons couramment sur la souffrance. Beaucoup d'entre elles contiennent une part de vérité et sont souvent justes en apparence, mais elles ne sont pas nécessairement vraies dans une perspective résolument chrétienne et avec l'éclairage de la petite Thérèse. Nous entendons souvent qu'il n'est pas juste de percevoir l'amour et la souffrance comme les deux faces d'une même pièce de monnaie, car la souffrance n'est pas une fatalité symétrique à l'amour. Elle est intrinsèquement un symptôme, un signe qui interroge le sujet malade. Elle est une privation d'un bien dû, comme le définit saint Thomas d'Aquin, pour qui le mal et par extension la souffrance est une privatio boni, une absence là où devrait se trouver une perfection. Dans cette logique, la souffrance fait signe vers une réalité qui dépasse la simple mécanique biologique. Elle interroge l'homme sur lui-même, sur Dieu, sur le sens de l'existence. Elle est aussi l'un des lieux où se joue la crédibilité de la foi chrétienne, car l'objection majeure de l'athéisme contemporain est que si Dieu existait, il ne pourrait pas tolérer tant de souffrances. Cette objection repose sur une vision implicite. Si Dieu est bon, il devrait empêcher toute souffrance. S'il ne l'empêche pas, il n'est pas bon et n'est pas Dieu, ou tout simplement Dieu n'est pas. Mais est-ce que cela résout l'énigme de l'origine de la souffrance pour pouvoir en sortir? La souffrance est à la fois un défi, car il n'existe pas de réponse satisfaisante au pourquoi. Elle est un scandale, car elle apparaît toujours en excès, et elle apparaît comme un non-sens, car elle n'est pas une vertu en elle-même. Elle est ce qui est, mais ne devrait pas être, selon l'expression de Paul Ricoeur. C'est là un grand problème posé par la souffrance, surtout par la douleur physique, car elle nous accompagne souvent tout au long de notre existence jusqu'à la fin. Dans notre société, nous déployons des efforts considérables pour ne pas souffrir, ou du moins pour souffrir le moins possible. Nous cherchons à guérir, à soulager, à atténuer la douleur par tous les moyens. Pourtant, guérir et souffrir ne relèvent pas du même ordre. Sur le plan religieux, la question devient encore plus brûlante. Est-ce Dieu qui nous fait souffrir? D'autant que nous entendons proclamer que Jésus a souffert pour nous sauver. La souffrance de Jésus et la mienne ont-elles alors quelque chose en commun? Y a-t-il un lien réel entre elles? La souffrance a-t-elle un sens? C'est la question centrale que nous méditerons ensemble tout au long de ces 9 jours. Ce sujet est particulièrement ardu et pourtant il est universel. Chacun d'entre nous a connu au moins une fois la souffrance, souvent à plusieurs reprises et sous des formes très diverses. Nous ne nous attarderons pas sur la plainte ordinaire ni sur la simple description des mots, mais nous chercherons à entrer dans cette question avec sérieux et profondeur. Au cours de cette neuvaine, nous chercherons humblement à entrer dans ce mystère. Nous ne prétendrons pas à en percer tous les secrets, car la souffrance reste pour une large part insondable. Mais nous désirons découvrir ensemble ce que la foi chrétienne peut nous révéler sur la souffrance humaine. Dès à présent, il est nécessaire de préciser que le terme « souffrance » est à différencier du terme « douleur », bien qu'il soit fréquemment utilisé l'un pour l'autre. À la douleur correspondent des explications. Elle renvoie à des faits, à des causes identifiables, à des mécanismes que l'on peut décrire et parfois traiter. À la souffrance, en revanche, correspond d'abord une perte de sens. Jacqueline Barus-Michel parle d'une perte de soi, d'une destitution du soi, tandis qu'Emmanuel Lévinas évoque une situation où le sujet perd toute vigilance dans l'être, tout espoir pour soi et dans l'autre, perte de toute liberté. Peut-on dès lors parler indifféremment de douleur et de souffrance? Nombreux sont ceux qui le font implicitement, en considérant que la douleur serait au corps ce que la souffrance est à l'esprit. Une grande ambiguïté règne pourtant dans l'usage courant de ces deux termes. Tantôt ils sont employés comme des synonymes, tantôt ils sont opposés. On entend dire par exemple que la douleur est physique, tandis que la souffrance est mentale. Ou encore que la douleur est inévitable, mais la souffrance serait optionnelle. Cette confusion n'est pas sans conséquence. Elle risque de réduire la souffrance à une simple variante psychologique de la douleur, alors qu'elle touche au plus profond de l'existence humaine. la capacité même du sujet à se tenir dans l'être, à espérer, à rester libre. La réalité de la douleur et le concept de la souffrance sont travaillés par les philosophes, les théologiens, les psychologues, les psychiatres et tant d'autres. Paul Ricoeur, lui, distingue clairement la réalité du concept. Sa réflexion s'organise selon trois axes principaux. Le rapport soi-autrui, le rapport agir-partir et surtout la question du sens. C'est précisément cette perte du sens qui constitue souvent la dimension la plus douloureuse de la souffrance. Cette approche rejoint d'ailleurs la définition retenue par les experts en santé mentale. La souffrance psychique désigne les difficultés manifestes vécues par des personnes sans qu'un trouble mental soit caractérisé, soit nécessairement identifiable. Elle comporte plusieurs dimensions. La traduction d'un état, tension, douleur intime, symptômes, un mode de communication, expression d'un refus, d'une impossibilité ou du caractère insupportable d'une situation, et d'une manière d'agir ou de gérer les tensions, parfois de façon très violente. D'où vient le terme de souffrance ? En premier lieu, le verbe souffrir exprime qu'une personne ou un bien se trouve dans une situation qui le contraint à supporter une charge. La souffrance désigne aussi l'état d'attente dans lequel se trouve un objet dit en souffrance. Le mot « souffrir » apparaît au XIe siècle. Il vient du latin populaire « soufirire » et du latin classique « soufere » qui signifie « endurer »,« supporter ». Le substantif « souffrance » attesté au XIIe siècle est issu du verbe « souffrir » et du latin chrétien « sufferentia » qui traduit l'idée d'endurance, de résignation et d'attente patiente. Vous comprenez que discourir sur la souffrance est donc particulièrement difficile. En effet, il est plus aisé de parler d'une réalité que tout le monde ignore que d'une réalité que tout le monde croit connaître. Lorsque nous ignorons un sujet, nous restons en suspens, prêts à découvrir. Mais lorsque chacun pense déjà savoir de quoi il s'agit, par sa propre expérience ou par celle des proches, tout le monde donne son avis, souvent sans avoir vraiment approfondi la question. Nous pouvons certes reconnaître par humilité que certaines souffrances sont plus intenses que les nôtres. Nous avons tous vu, à l'hôpital ou ailleurs, des personnes éprouvées bien au-delà de ce que nous avons nous-mêmes connu. Pourtant, savons-nous vraiment de quoi parlons-nous lorsque nous évoquons la souffrance? C'est pourquoi je voudrais commencer par poser quelques questions simples, celles que tout homme et femme se posent au moins une fois dans sa vie et auxquelles nous tenterons de répondre au cours de ces méditations. Pourquoi souffre-t-on? Pourquoi le corps souffre-t-il? Dieu demande-t-il la mortification? Qu'ai-je fait à Dieu pour mériter cela? La souffrance est-elle nécessaire à la justification de l'homme? Pourquoi Dieu nous impose-t-il une telle souffrance durant la vie pour finalement mourir? En quoi la souffrance est-elle rédemptrice? La justification n'est-elle pas plutôt un pur don de Dieu qui nous introduit dans son repos? Pourquoi Jésus a-t-il dû souffrir autant pour nous racheter? Mais nous racheter de quoi? La souffrance est-elle une punition ou une réparation des fautes commises par nous-mêmes ou par nos aïeux? Ces questions surgissent souvent de l'expérience immédiate, plus que d'une réflexion approfondie. Elle occulte cependant le problème fondamental. En quoi consiste réellement la souffrance? Quel est son rôle dans notre existence? Car il est difficile d'imaginer un être humain qui n'ait jamais souffert ou qui ne souffre jamais. Nous pouvons rêver d'une vie sans souffrance, mais au fond, personne n'y croit vraiment. Dès son arrivée en ce monde, l'homme passe par la douleur. Un enfant qui naît pleure. Pour le nouveau-né, la naissance elle-même n'a rien de reposant. Ainsi, dès l'entrée dans cette neuvaine, nous reconnaissons la gravité et la complexité de la souffrance humaine. Nous ne chercherons pas à la minimiser, ni à la glorifier pour elle-même, mais à la mettre sous le regard de la foi, en compagnie de la petite Thérèse, pour y découvrir, avec l'aide de la grâce, la réponse de l'amour de Dieu, l'espérance.